Pourquoi est-il si difficile de faire un choix ? Qu'il s'agisse de la petite décision au choix le plus structurant dans une vie, parfois nous n'arrivons plus à savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Nous nous sommes tous demandé un jour comment être certain de prendre la bonne décision. Ce podcast est dédié aux indécis, mais pas uniquement. Vous allez voir que choisir est bien plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Bonjour et bienvenue sur le podcast Coach Christina. Je suis Christina Villarino, coach de vie certifiée et psychothérapeute. Ces podcasts me permettent de partager avec vous les concepts de coaching et de psychologie qui nourrissent mon travail au quotidien. Inscrivez-vous à la newsletter hebdo dans laquelle je partage des conseils pour mieux comprendre vos émotions et comportements et surtout pour vous épanouir dans votre vie personnelle et votre carrière. Inscription sur mon site coach-christina.com. Choisir, parfois, c'est compliqué. Démissionner ou garder son emploi, avoir un enfant ou pas, divorcer ou tenter de sauver son couple, déménager ou rester. Nos vies sont pleines de questions perturbantes et angoissantes face auxquelles il y a une seule certitude, il faut choisir. Pour certains, choisir peut être difficile. Ils bloquent devant un menu au restaurant. Pour d'autres, le casse-tête arrivera lors d'une décision stratégique à prendre au travail. Nous passons notre vie entière à devoir choisir et décider, sans arrêt. Sans que nous comprenions toujours pourquoi choisir peut devenir parfois trop difficile. Comme s'il y avait un peu une profusion de liberté qui nous engloutissait et qui nous faisait perdre nos repères. Ou comme si on n'allait jamais être à la hauteur pour réussir à prendre la bonne décision. Vous savez, cette décision que tout le monde attend de nous et qu'on n'est pas capable de prendre, ou cette décision que l'on sent être la bonne, mais qu'on ne veut pas prendre de peur qu'on nous la reproche. Par chance, de nos jours, nous ne sommes plus confrontés à un destin prédéfini à notre naissance. Qu'il s'agisse d'une classe sociale, d'un métier transmis de père en fils, d'un rôle prédéterminé à cause de notre sexe ou de notre place dans la famille, ou encore même de notre religion. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés, dans nos civilisations occidentales du moins, de suivre les injonctions de notre société pour atteindre notre épanouissement individuel librement décidé. Mais paradoxalement, cette liberté et cette égalité presque acquises nous ont mis face à nos responsabilités. Nous ne sommes plus soumis aux autres, nous sommes les acteurs de notre propre bonheur, et parfois, bien ça, ça fait peur. Ça fait peur, et ça signifie aussi que l'on peut se tromper, et être le seul responsable d'un mauvais choix. Alors, pourquoi est-ce si difficile de choisir ? Pour certains, il est difficile tout simplement de choisir tout seul, et de se dire que tout dépend de soi et non plus des normes sociales, des règles familiales ou même culturelles. Plus personne n'est là pour décider à notre place, et la responsabilité peut sembler écrasante. Mais le fait de choisir, c'est un mécanisme complexe que nous vivons tous, qui est à la fois émotionnel mais aussi cognitif. Lorsque notre cerveau doit prendre une décision, il fonctionne en deux temps. D'abord, il examine les options disponibles, ce qui lui permet d'éliminer assez rapidement de nombreuses possibilités. Ensuite, il compare les options restantes. Et c'est là que ça se complique. Plus le choix est important, plus on tente de le rationaliser. Vous savez, c'est faire la colonne des plus et les moins. Donc ces colonnes, elles sont sympas, d'accord, parce qu'elles nous permettent d'avoir un peu plus de clarté, mais elles ne nous permettent pas de trancher, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui échappent à la raison. C'est le cas de nos peurs, de nos besoins, de nos craintes. Ces facteurs qui nous échappent, ces émotions sont présentes, même si on tente de les ignorer. Alors, qui sont les personnes qui ont du mal à choisir ? Et surtout, sommes-nous tous égaux face à une prise de décision ? Savoir choisir, c'est avant tout une affaire de prise de conscience, d'engagement et de responsabilité. Je vais vous donner trois petits exemples de personnes qui ont du mal à choisir. Évidemment, c'est loin d'être exhaustif. Pour un perfectionniste, par exemple, choisir est très compliqué. En effet, c'est quand même terrible d'arrêter son choix et de prendre une décision, car on veut que cette décision soit absolument parfaite. Donc, certains perfectionnistes préfèrent renoncer à choisir car cela provoque chez eux un épuisement inévitable et surtout la peur de ne pas faire le bon choix. Il n'est alors pas rare que le perfectionniste procrastine ou a besoin d'une multitude d'avis ou de preuves pour prendre une décision. Ce que je propose aux personnes perfectionnistes, c'est de travailler sur une prise de conscience. Le perfectionnisme est un problème dans leur vie en général. C'est d'abord en apprenant à lâcher prise et en apprenant à être moins exigeant qu'il va se permettre de prendre des décisions beaucoup plus simplement. Alors c'est évidemment un travail qui se fait par étapes, mais ce qui est super intéressant dans ce travail, c'est de comprendre que plus on s'autorise à faire confiance à son intuition, et souvent plus la vie et les choix se simplifient aussi. Un autre exemple de personnes qui ont du mal à choisir, ce sont les individus qui ont cette difficulté à choisir parce qu'ils sont dans l'ignorance. Alors, c'est un mot fort pour dire juste qu'ils ne sont pas au courant ou qu'ils ne savent pas. Lorsque l'on n'a pas accès à l'information, lorsqu'on est dans le noir, tout simplement, il est beaucoup plus compliqué de trouver sa direction. Certains choix se font donc beaucoup plus facilement en prenant juste le temps de se pencher sur une problématique bien précise à un moment donné. Accorder du temps à certains sujets, prioriser à un moment un sujet plus qu'un autre, permet de maîtriser ce sujet et permet de prendre des décisions beaucoup plus sereinement. Oui, parfois c'est très simple, hein, c'est juste aussi simple que ça. Enfin, le troisième cas de figure, il faut savoir que choisir demande parfois du courage et de la confiance. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux concernant l'estime que nous avons de nous ou la confiance que nous allons accorder à nos choix. Et si on se loupe, entre guillemets, eh ben on ne va pas nous louper. Dans nos sociétés, malheureusement, reconnaître publiquement des échecs ou un mauvais choix peut alimenter cette perte de confiance. Lorsque je travaille avec mes clients sur l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, je leur rappelle qu'ils n'ont pas à avoir honte de s'être trompés, que souvent leurs petites erreurs les ont même construits et que le regard des autres importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui doit les intéresser aussi, ça fait partie du travail, c'est d'être fiers de ce qu'ils accomplissent et pas de la façon dont les autres vont les regarder. Gardez en tête que la confiance en soi est une plante intérieure que nous seuls pouvons faire grandir. Les autres sont des facteurs facilitants ou pas de cette croissance. Mais vous seul avez la main dessus. À présent, vous avez une plus grande vision du mécanisme de la prise de décision. Donc je vais essayer maintenant de répondre à la question « Comment prendre une bonne décision ?» Comment faire pour ne pas se perdre dans toutes ces libertés de décider et pouvoir faire un choix en toute sérénité? Choisir, ça s'apprend non seulement dans l'enfance, mais aussi tout au long de la vie. Alors ne vous inquiétez pas, on peut toujours apprendre à choisir et je souhaite vous aider à y voir plus clair. Alors, premièrement, il faut observer et faire le tri. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude, comme je vous le rappelle régulièrement, tout travail de développement personnel débute par une phase d'observation de ses propres comportements. On observe de façon objective, neutre et factuelle. Certaines problématiques demandent juste à être identifiées, analysées de façon purement neutre. Voilà, j'ai un problème et je dois prendre une décision. L'exercice est donc le suivant. Et si j'essayais de ne pas faire rentrer mes émotions en compte et de voir ma problématique, de voir le choix que j'ai à réaliser, d'un point de vue purement factuel. Quelles seraient mes premières conclusions? Quels seraient mes premiers choix? Lorsque vous avez ces réponses, venez observer ensuite la charge émotionnelle que vous mettez sur ces choix. Qu'est-ce que me procure telle ou telle décision? Pourquoi ai-je peur de choisir? D'où peuvent venir ces peurs? Est-ce que ce sont des peurs rationnelles ou des peurs que l'on m'a transmises, dont on m'aurait parlé? Est-ce que j'hésite parce que ce choix me semble trop loin de mes valeurs ou trop loin des choix qu'un autre aurait fait? Vous voyez, tout ce travail est un travail qui au début semble laborieux, mais qui est global et indispensable dans le cadre d'un développement personnel. Il permet de mieux maîtriser ses conflits intérieurs, de mieux comprendre ses peurs et être capable de les prendre en compte lorsque l'on prend une décision, savoir à quel niveau elle nous influence notamment. Une fois que ce mécanisme est intégré, ça peut prendre du temps, mais pas tant que ça au final, eh bien on est beaucoup plus prêt à affronter tout le reste et surtout les prises de décision dans sa vie. Vous saurez ainsi faire de façon automatique le tri entre ce qui est factuel et ce qui est émotionnel. Attention, je ne dis pas dissocier les deux pour en abandonner l'un ou l'autre, mais les identifier. À partir de là, vous êtes prêt à passer à la seconde étape. La seconde étape consiste à écouter vos intuitions et vos désirs. Après avoir travaillé dans une première partie sur l'observation, vous allez être aussi beaucoup plus à même de neutraliser petit à petit toutes les pensées parasites qui vous entourent et de vous reconnecter à vos désirs. Vous avez le droit de vous demander, mais au fait, quelles sont mes priorités? Et si je me concentrais juste sur ça, mes priorités, est-ce que ça ne simplifierait pas tout simplement ma prise de décision? Bon, la réponse évidemment est oui. Dans la vie, à certains moments, pour y voir plus clair, il faut se concentrer sur deux ou trois priorités, pas plus. Réfléchissez à vos priorités du moment. Ces priorités vont devenir vos sources de motivation et vont vous permettre de simplifier vos prises de décision. Lorsqu'on est motivé par un sujet précis, on fait des choix différents qui nous paraissent plus simples. Ces priorités, évidemment, elles évoluent avec le temps. Il y a des choix que vous faites aujourd'hui avec votre état d'esprit et vos priorités qui pourraient être différents dans quelques années ou qui auraient pu être différents il y a quelques années. Rien n'est figé, vous n'êtes pas une personnalité figée. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec vos valeurs et vos désirs. C'est dans ces cas de figure que l'on prend une décision qui est la meilleure pour nous à un moment donné. Et puis, il y a l'intuition, qui peut être un bon guide également. Donc l'intuition n'est pas juste une légende urbaine, c'est aussi une espèce d'intelligence intérieure, à part entière, donc en parfaite connexion avec votre monde intérieur et votre désir. Le troisième outil que je vous propose pour une bonne prise de décision est de vous connecter aux autres. Alors, je viens de vous dire qu'il faut que vous vous écoutiez vous et que vous fassiez plus de place à vos intuitions et à vos désirs. Et là, je vais vous dire que l'avis des autres m'intéresse quand même. Alors, attention, ce n'est pas du tout contradictoire. Il me semble très enrichissant d'avoir ce que j'appelle moi un mur de rebond, de confronter ses idées et d'obtenir des feedbacks. Parfois, avant de prendre une décision importante, il peut être intéressant d'écouter le positionnement des autres, que ce soit des membres de la famille, votre conjoint, vos amis, des collègues. Et ainsi de s'ouvrir à d'autres points de vue. Votre avis, votre intuition concernant une prise de décision reste pour moi prioritaire. Néanmoins, les opinions ou avis des autres peuvent vous permettre d'apporter quelques aménagements à votre propre prise de décision. Je ne parle pas d'influence. Je vois là des éléments complémentaires qui vont vous aider à choisir comme une source d'inspiration. Parce qu'en effet, vous allez faire le tri et cela peut enrichir votre perception d'un problème. Bon ou mauvais, il y a toujours quelque chose à prendre dans un feedback. Tous les avis sont intéressants à partir du moment où, grâce au travail que vous avez fait précédemment dans les deux premières parties que je vous ai proposées, vous êtes prêt. Sans cela, oui, vous serez plus influençable et vous risquez également de prendre des décisions qui ne sont pas des décisions qui vous correspondent. Et donc là, on va à l'encontre de l'exercice qui consiste à rechercher le moyen de prendre la meilleure décision possible pour vous et non pas pour les autres. Enfin, le quatrième outil que je vous propose pour réussir à faire des choix sereins et qui pour moi est l'outil clé, c'est agir. Il faut être dans l'action et la prise de décision. C'est la meilleure façon de s'affranchir de ses peurs, de ses inhibitions et de ses doutes. Passer à l'action, cela peut aller d'avoir un plan d'action bien concret, mais aussi d'agir de façon très rapide en suivant son intuition. L'action est la façon de rentrer dans une boucle vertueuse de confiance. Une action conduit à un résultat et à une satisfaction. Qu'il s'agisse de petites ou grosses décisions, agir fait du bien. Le souvenir que vous allez avoir finalement de cette satisfaction vécue va vous aider à construire la prochaine prise de décision. Car être dans l'action et décider soi-même, c'est extrêmement valorisant. Être en action, c'est transformer de la peur en courage, c'est se sentir aussi davantage en contrôle de sa vie et de son environnement. Et tout cela, ça permet juste d'être en connexion avec la personne que l'on est et la personne que l'on a envie d'être. Les quatre outils que je viens de vous proposer vont vous permettre d'être plus serein pour prendre une décision. Mais alors, et si malgré tout, vous faites un mauvais choix. Que se passe-t-il ? Donc non, vous n'allez pas vous transformer en citrouille, hein, ne vous inquiétez pas, je vous assure, ça n'arrive jamais. Mon avis est qu'en utilisant ces outils, eh ben, il n'y a pas réellement de mauvais choix. Il m'arrive de travailler avec des personnes qui, au début, sont dans l'urgence. L'urgence de trouver absolument la meilleure solution et de faire absolument le bon choix. Donc, je les mets rapidement en garde. Attention, il faut toujours prendre en compte votre histoire, comment le temps vous a construit, quel est votre environnement actuel, pour accéder à une solution qui sera la meilleure pour vous. Il y a très peu de choix, finalement, dans une vie qui sont irréversibles. Il faut être capable de se délester de cette pression du choix parfait et surtout, il faut vous laisser de la place pour observer votre capacité à rebondir et à créer quelque chose à partir d'un choix qui vous semble imparfait. Ce qui compte, c'est de comprendre que vous avez toujours le choix. Alors parfois, c'est vrai, on est face à des options qui sont peu réjouissantes ou peu attirantes. On doit se décider entre des choix qui nous semblent imparfaits. Vous savez, c'est l'expression « avoir le choix entre la peste et le choléra ». Donc, je vous propose de voir les choses de façon légèrement différente lorsque vous êtes dans ce cas de figure. Premièrement, il existe régulièrement plus de choix et d'options que ce que votre cerveau vous montre. Mais c'est uniquement en confrontant vos idées, vos doutes, par exemple avec un coach, un thérapeute, un ami bienveillant, que l'on est capable d'acquérir une vision plus large, plus complexe et peut-être d'imaginer d'autres choix. Il est très important d'échanger pour connaître réellement quelles sont vos options. Et puis, il y a le cas de figure où il n'y a vraiment que peu de choix et qui vous semblent tous très mauvais. À ce moment, je vous propose de garder la main et de choisir votre inconfort. Ça signifie quoi ? Entre ces choix restreints, quel est l'inconfort qui, pour vous, est le plus acceptable ? Quel est celui que vous êtes le plus prêt à accueillir ? Quel est l'inconfort de choix qui vous permettra de transformer une décision afin qu'elle s'approche le plus possible d'une satisfaction ? Je vais vous donner un exemple purement professionnel et plutôt commun. Vous souhaitez demander une augmentation à votre responsable. Pour des raisons multiples, vous avez vraiment besoin de cette augmentation. Problème, si vous demandez une augmentation à votre patron, il va très mal le prendre, il déteste aborder ces sujets, ça vous stresse d'aller le rencontrer pour aller lui demander de l'argent, parce qu'en plus vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec ce sujet. Et puis, est-ce le bon moment ? Est-ce que vous êtes légitime pour le faire ? Là, je vais donc vous poser la question, quel inconfort choisissez-vous ? Essayez de réfléchir sans vos peurs, sans imaginer la réaction de votre patron, sans vous trouver des excuses ou lui trouver des circonstances atténuantes. Quel est l'inconfort que vous préférez ? Est-ce l'inconfort de devoir préparer cet entretien, gérer votre stress et aller demander cette augmentation ? Ou bien l'inconfort de ne pas avoir cette augmentation ? Vous comprenez ici l'idée de choisir son inconfort ? Ne pas demander cette augmentation, cela vous ferait rester dans l'inconfort d'une situation financière peut-être complexe, puisque vous avez besoin de cette augmentation. Alors que la demander, ça vous mettrait dans l'inconfort de vous confronter à votre responsable, certes, mais ça vous permet d'ouvrir la porte à une négociation salariale, ou même de réfléchir en cas de refus à aller plus loin, quitte à changer de poste pour rechercher cette augmentation. Donc finalement, ici, en choisissant l'inconfort de passer à l'action et de vous confronter à votre responsable, vous ouvrez plus d'opportunités, donc vous vous rapprochez de votre désir, vous vous rapprochez de ce dont vous avez envie, et surtout, je peux vous assurer que vous allez être particulièrement fier d'être passé à l'action. Donc il y a toujours le choix, et surtout ne doutez jamais de votre capacité à transformer un choix qui au final vous semblait ne pas être le bon, en quelque chose de positif dans votre vie. Pour aujourd'hui, je conclurai sur ce sujet de la prise de décision et de faire le bon choix en vous disant que la prise de conscience et l'action font un duo parfait pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Il faut retrouver le socle profond qui constitue vos fondations, vos valeurs, au lieu de vous perdre dans les envies et règles d'une société ou de certaines de vos conventions familiales. Parfois, c'est tout simplement en se reconnectant avec vos désirs, en faisant confiance à vos besoins, que vous pourrez prendre en main votre destin et être capable de faire des choix dans une relative sérénité. Et puis, il faut accepter aussi que nos décisions peuvent être maladroites, ne pas toujours être les meilleures, mais il faut relativiser en se disant que la plupart d'entre elles ne sont pas vitales. On ne peut pas tout contrôler, une grande partie des conséquences de nos choix nous échappent. Se tromper, ce n'est pas gâcher sa vie. On peut se tromper et tout recommencer, on peut se tromper et corriger, et surtout on peut se tromper et apprendre de nos erreurs. Il ne faut jamais douter de votre capacité à pouvoir rebondir et à pouvoir vous relever. Si vous vous sentez régulièrement dans des situations angoissantes face à un choix ou si vous avez l'impression qu'une décision est trop lourde à prendre, contactez-moi et nous échangerons sur le sujet pour trouver des solutions simples. Et puis pour tous ceux qui me disent « moi, pour être sûre de ne pas me tromper, je préfère ne pas faire de choix », je vous rappelle qu'en prenant cette décision, eh bien vous faites déjà un choix. Donc impossible de ne pas choisir, alors choisissez en pleine conscience. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos proches qui pourraient en avoir besoin ou que le thème pourrait intéresser. Vous pouvez aussi me laisser votre avis sur la plateforme de votre choix, me poser toutes vos questions par mail directement ou sur mon site internet via Instagram ou Facebook. Je serai très heureuse d'y répondre. Je vous dis à bientôt et merci à tous.